des plus gros enjeux du coup dans les déchets nucléaires, c'est que chaque type de déchet nucléaire a une longévité propre. Donc il y a des déchets nucléaires qui vont durer 100 ans, il y en a qui vont durer quelques heures seulement, mais il y en a qui peuvent aussi durer 1 million d'années. Et ce 1 million d'années, en fait, c'est ça qui vient poser problème, parce que ces déchets qui peuvent parfois être à haute activité peuvent être dangereux pour nous. Et tout l'enjeu, c'est comment prévenir les gens qui vivront du coup dans 1 million d'années, qu'il peut y avoir un danger inscrit dans la terre ou inscrit dans la mer. Pour ça, je me suis un peu posé la question de comment prévenir ces gens qui sont là dans 1 million d'années. Et pour ça, il y a 2 problèmes. Le problème du médium et le problème du message. Le problème du médium, il est assez simple à expliquer. La plupart de nos disques durs, ils ne vont pas durer plus de 10 ans, 20 ans. Mais même des techniques beaucoup plus anciennes, comme la gravure sur pierre, ne sont pas des techniques qui sont résilientes en fait, à l'usure du temps et aux variables environnementales, pas en tout cas sur 1 million d'années. L'autre problème, c'est le problème du message. Qu'est-ce qu'on écrit ? Imaginons on a le médium parfait. Maintenant, qu'est-ce qu'on écrit comme message ? Parce qu'on n'est pas sûr de parler les mêmes langues dans 1 million d'années. On n'est pas sûr d'avoir en tout cas les mêmes moyens de communication, que ce soit écrit, oral ou quoi que ce soit. Et du coup, là-dedans, au sein même de cette question du message, il y a 2 scénarios. Il y a celui de la rupture sociétale. Donc imaginons il y a un effondrement qui arrive et une discontinuité dans la culture qui fait qu'on ne peut pas transmettre des éléments d'une à l'autre. On perd du coup tous les éléments culturels et nos manières de communiquer. Et l'autre scénario, c'est celle des mutations de la culture. C'est-à-dire que là, en 200 ans, 300 ans, rien que la langue française elle-même a beaucoup changé. Mais on ne parle pas seulement de langues telles qu'on les parle. Le langage scientifique, lui aussi, a beaucoup changé, ne serait-ce que dans les 2000 dernières années, quoi. Donc il y a vraiment tous ces enjeux-là à adresser. Et c'est là que je fais une toute petite parenthèse sur le fait que moi, j'ai adressé ces problèmes-là, mais pas avec un point de vue solutionniste. Mon but ici, ce que je vais vous montrer, ce sont des œuvres artistiques. Elles veulent pas résoudre ces problèmes sociétaux, mais elles sont plus à voir comme des tentatives poétiques et politiques pour cet enjeu-là. Et du coup, j'ai commencé à faire une liste de 42 sites. Je me suis dit, on ne va pas utiliser de mots, on va vraiment utiliser seulement la localisation de ces endroits-là. Alors, j'ai choisi 42 sites. Parmi ces sites-là, j'ai mis les 3 plus gros accidents nucléaires, donc Tchernobyl, Fukushima et Kishtim, qui est un peu moins connu. J'ai aussi mis les lieux de stockage de déchets radioactifs. Donc de la guerre froide à 1991, la norme c'était de les mettre dans l'océan, donc c'est pour ça que là ici il y a plein de carrés bleus. Après, à partir de 91, les gens ont commencé à réfléchir à si on les mettait du coup dans des couches géologiques. Savoir que la norme aujourd'hui pour les déchets de haute activité, ça va être les couches géologiques profondes, en tout cas certains pays s'y penchent. Du coup, j'ai listé un peu ces lieux-là. J'en ai listé aussi qui sont pas encore en activité, des lieux qui sont encore à l'étude, donc par exemple en Belgique. Donc ces lieux-là, ils sont tous réunis par le fait qu'ils ont eu une activité radioactive soit passée, soit présente, soit future, assez intense. Et du coup, cette liste de coordonnées, qui sont chacune latitude et longitude, on voulait les encoder dans un médium qu'on se disait qu'ils pouvaient survivre longtemps. Donc on a travaillé avec un labo de biologie, et on s'est dit une des choses qu'on aurait en commun avec les gens qui habiteraient dans 1 million d'années, ce serait le code ADN. Même si dans 1 million d'années on a 12 doigts, ces 12 doigts on les aura parce que du coup notre code génétique s'exprime, nos gènes s'expriment et on donne ces 12 doigts. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris ces latitudes et les longitudes, on les a convertis d'abord en binaire pour donner un tronc commun, parce que c'est toujours plus simple de convertir d'abord les choses en binaire. Et après on a réencodé ça en base 4. Donc en base 4, typiquement ça veut dire 4 éléments. Comme en binaire il y a 2 éléments, il y a le 0 et le 1. En base 4, on a 4 éléments. Ces 4 lettres que vous voyez là, ici, peut-être que vous avez les rappels du lycée, mais ce sont les 4 types de nucléotides différents qui peuvent se trouver dans la structure ADN. Donc on a encodé ça sur un brin d'ADN, mais il faut savoir que c'est un brin d'ADN synthétique. C'est pas un brin d'ADN qu'on veut mettre dans des humains, ou c'est pas un brin d'ADN qu'on a prélevé à des humains. Il n'a pas vocation à exprimer de gènes ou quoi que ce soit. On s'en sert vraiment seulement comme médium. Pourquoi ? Parce que l'ADN a une structure moléculaire qui est très, très résiliente. Aujourd'hui, en fait, dans les fouilles archéologiques, on va trouver des artefacts sur lesquels on trouve encore des traces d'ADN, de par du coup la structure assez résiliente. Et au final, on avait une petite goutte, et dans cette goutte, il y avait 1 million de fois du coup la même information qui contenait la chaîne de toutes ces latitudes et longitudes. Et cette petite goutte, on l'a encapsulée dans du verre, et puis après on l'a encapsulée dans du métal, et après encapsulée dans de la résine époxy que vous pouvez voir ici. Et entre autres, la société qui m'a aidé à faire l'encapsulage, du coup, garantit sa longévité pour les 50 000 prochaines années.